Ouais, ça y est.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Nasser Abelhazzin.
Rencontrer votre travail, Nasser Abelhazzin, c'est rencontrer un rapport au mouvement. Le vôtre, celui des interprètes qui dansent avec vous, et le nôtre, par un système de résonance et d'écho très profond. Vos pièces sont des spectacles, bien sûr, on regarde, bien sûr, à distance, bien sûr, mais notre corps participe. Par vibration, par transfert, il est pris s'il veut bien se laisser prendre. De fait, nous faisons, nous aussi, dans une toute autre mesure, l'expérience de ce que vous appelez la plongée verticale introspective. Et c'est là que je veux en venir. Il me semble qu'il y a dans cette expression, utilisée pour décrire votre recherche incessante depuis des décennies, quelque chose de très parlant quant à l'expérience de la lecture. Si la lecture peut avoir lieu à l'horizontale, il me semble que cette plongée verticale dont vous parlez, cette forme de trouée dans le réel et en nous, est une manière possible de penser ce qui se joue dans un corps et un esprit qui lit. Aussi n'ai-je été qu'à moitié surprise de découvrir qu'en même temps que vous continuiez de vous former vers la fin des années 80 à la danse pratiquée depuis l'enfance, vous avez aussi suivi des études de lettres modernes. Nous voilà donc très curieuses et curieux de découvrir votre rapport au texte et à la lecture. Merci beaucoup, Nasser Abelhazzin, d'avoir accepté l'invitation du Book Club à déballer votre bibliothèque. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. On se demande toujours comment on pourrait faire le portrait de nos invités, d'abord en tant que ce sont des lecteurs et des lectrices, avant d'entrer dans leur bibliothèque. Et on leur demande leur premier souvenir d'apprentissage de la lecture. Donc, est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage et peut-être près de qui vous avez appris à lire?
Alors, près de qui je me suis plongée dans les livres, c'est auprès de mon frère, en fait, mon frère aîné, qui je salue la mémoire puisqu'il est décédé depuis 3 ans. Et en fait, il avait l'habitude de résumer des livres, de m'écrire plusieurs pages et de les déposer sur mon lit pour que je les lise et pour que ça me donne envie. J'avais déjà commencé, j'avais 12-13 ans à ce moment-là, mais j'avais déjà commencé évidemment à danser. Et en fait, c'est comme s'il cherchait à me sensibiliser, il cherchait à m'ouvrir cette porte, cette fenêtre dans ma vie, qui a été après évidemment très importante. Et je dois dire qu'au début, donc, je lisais ses résumés, mais il a dû insister, et peu à peu, j'ai eu le sentiment vraiment, effectivement, d'ouvrir des mondes, en fait, à travers ces livres. Et j'ai compris longtemps après que, de la même manière que la littérature avait pu, pour lui, être la découverte, le dévoilement de mondes et de rêveries et de liberté, et il souhaitait qu'elle ait la même fonction chez moi. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, j'ai, à partir de là, commencé à lire tout un tas de choses.
C'est marrant parce que quand on pose cette question, de la manière dont je la pose, Nasser Abelhazzin, les gens parlent de leur apprentissage au sens du déchiffrement, de quand ils ont appris à lire vraiment, à comprendre que plusieurs lettres sur un bout de papier, ça faisait des sons. Et pour vous, apprendre à lire, c'est vraiment plus tard, dans l'adolescence, oui. par ces fiches de lecture de votre frère.
Oui, parce que j'ai évidemment appris à lire à l'école, mais j'ai pas été sensibilisée aux mots, à la lecture, à l'univers que ça peut représenter, jusqu'à ce que je me mette à lire des livres. Et donc j'ai appris le français à l'école, étant donné qu'à la maison on parlait l'arabe. Voilà, donc non, la littérature est arrivée plus tard, l'âge de raison.
L'âge de raison, vous voulez dire un peu plus tard, parce que l'âge de raison, 17 ans d'habitude.
Non, ben,
l'âge de raison, raison alors, fois deux, l'âge de raison, fois deux. Ça ressemblait à quoi ces résumés de votre frère ?
Ben, il me disait ce que le livre racontait et ce que le salut faisait à lui. Et il faisait tout pour me donner envie, en fait. Vraiment, pour éveiller ma sensibilité. Je souhaite à tout le monde d'avoir un grand frère comme le mien.
Lui-même, c'était un grand lecteur.
Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que, étant donné qu'on arrivait en France et on vivait, je l'ai souvent dit, mais ces familles immigrées arrivées en France, à ce moment-là, vivaient vraiment de manière très... repliée sur elle-même, très hermétique, et il y avait très peu de moyens de s'échapper, de rêver, et étant donné qu'en plus j'étais assez contrainte au niveau de mes déplacements, enfin ma liberté physique à ce moment-là, c'est vrai que la littérature m'a donné le sentiment de pouvoir déployer des immensités à l'intérieur de ma vie en étant immobile dans ma chambre. Et ça, ça n'a pas de prix.
Est-ce que vous vous souvenez d'un ouvrage qu'il aurait résumé et que vous auriez lu ?
Très franchement, il y en avait beaucoup. Il y a eu vraiment à chaque fois au fil de ces lectures. Et ça, je ne m'en souviens pas. Et d'ailleurs, j'ai noté, maintenant que vous m'avez fait faire cet exercice, que j'ai finalement pas gardé beaucoup de mémoire. En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs de livres. Il me reste des phrases, il me reste des images, il me reste des pensées qui ont déclenché des choses chez moi très importantes. Vaguement les histoires. Et c'est comme si le temps avait peu à peu filtré en fait des choses et qu'il ne me restait que ce qui me parle à moi au plus profond. Mais Socrate fait partie des choses qu'il... Enfin, Apologie de Socrate fait partie des premiers livres qui m'a mis entre les mains.
Ah oui, donc c'est costaud.
Ça a commencé très tôt.
Comment ça lui était venu, simplement? On peut s'attarder, parce que ça semble être un lien si fort, Nasser Abelhaza, entre la lecture. Lui, il tenait ça d'où?
Mes parents donc sont venus en France pour qu'on étudie. Donc les études étaient prises très au sérieux. Et lui, je sais pas à quel moment, mais en tout cas, il avait 2 ans plus que moi. Il a commencé à lire. Et puis, il aimait surtout beaucoup écrire. Je pense qu'il y avait un lien entre ce qu'il écrivait et puis l'envie de découvrir d'autres univers. Et voilà. Et ça, au début, c'est son geste qui m'a touchée au début, qu'il ait pris le temps et la peine de m'écrire ces choses-là, comme s'il voulait me sauver, en fait. Il m'écrivait tous ses résumés. Et puis après.
Il ne disait rien?
C'était laissé comme ça? Non, il ne disait rien. Il disait juste de, voilà, de le lire. Et c'est ce geste plein de pudeur et en même temps d'amour qui, moi, me touchait. Et qui fait que peut-être, à ce moment-là, j'étais un peu très agitée, même. J'ai fait l'effort de lire.
Vous évoquez le fait que vous avez appris le français à l'école et que chez vous, on parlait arabe. Mmh. Est-ce qu'il y avait des textes en arabe chez vous, des livres?
Non. Il y avait des livres comme on en voit dans certaines familles, enfin des espèces d'atlas, des choses comme ça. Mais non, il n'y avait pas de livres. Mon père et ma mère ne savaient pas lire le français. Mon père sait lire l'arabe, mais pas le français. Donc, c'est plutôt une... J'ai été sensibilisée aux mots par l'oral, en fait, par les histoires qu'on nous racontait, notamment en Algérie, mes grands-parents, etc. Et c'est vrai que c'est une culture qui se transmet en grande partie par des histoires à l'oral. Et donc, je pense que la sensibilité aux histoires a été éveillée à ce
par
moment-là,
ça, ouais.
Au sein de ma propre famille. Et puis ensuite, sont arrivés ces supports que sont les livres et qui permettent effectivement des voyages inouïs sans quand on n'a pas la possibilité de... D'ailleurs, je crois que c'est une phrase d'Aldous Huxley qui dit il y a deux moyens de voyager. Soit on explore le monde physiquement, on va le parcourir, soit on plonge à l'intérieur de soi. Et je pense que cette plongée dans la littérature, elle correspondait aussi à un besoin de voyager, de se libérer.
Et je reprenais cette expression que vous utilisez pour parler du mouvement ou de votre travail, la plongée verticale dans l'intériorité. Et je me suis dit, bah oui, tiens, c'est ça en fait qui se passe quand, par exemple, moi, si je suis allongée à l'horizontale et que je lis, il y a quelque chose de très vertical qui se passe. Et on pourrait considérer qu'il n'y a pas beaucoup de passerelles entre tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui de votre bibliothèque, Nasser Abelhaza, et tout ce que vous explorez au plateau depuis des décennies sur le mouvement. Mais au final, si, peut-être, quand même.
Quand vous m'avez proposé cet exercice, pour être très honnête, je l'ai trouvé un peu fastidieux, parce que c'est loin.
Il l'est, du reste.
Voilà. Ces livres sont très loin aujourd'hui. C'est comme des marqueurs que j'ai comme ça dans mon passé, mais ça m'a obligée à sonder ce passé en très peu de jours, d'ailleurs. À le sonder, à comprendre pourquoi ce livre et pas un autre. J'ai énormément de livres chez moi. Pourquoi je n'aurais pas choisi tel auteur, telle histoire. Et puis, je me suis astreinte à vraiment essayer de retrouver les livres, les pensées un peu fondatrices, en fait, qui ont vraiment déclenché des choses importantes chez moi, d'une part. Mais en même temps, plus je les relisais, plus je me disais, mais en fait, c'est pas tant les livres qui nous forment. C'est comme si on était prédisposés, on avait une quête intérieure qui allait à la rencontre de ces livres. Et en fait, ces livres, j'ai le sentiment de les avoir, non pas découverts, mais rencontrés, dans le sens où je les connaissais, quelque part, je les portais en moi, et ils ont mis en mots des choses voilà, peut-être troubles, insaisissables. Et c'est pour ça que je les ai reconnus aussi fortement. Et ils ont, d'une certaine manière, validé des choses à des moments importants de mon parcours et de ma vie.
Qu'on va déplier tout à l'heure. Vous dites que vous avez beaucoup de livres chez vous. Ça tient quoi comme place aujourd'hui, la lecture, dans votre vie quotidienne ?
Peu beaucoup de place, je vais m'expliquer là-dessus, hein, mais peu à peu, en fait, il y a eu ce moment de lecture pendant des années, hein, chez mes parents et puis à la fac, etc., où j'ai beaucoup, beaucoup lu, j'avais envie d'employer le mot consommer aussi.
Et aimer lire, ah oui, ouais, c'était beaucoup.
La fac, on nous demandait de lire des choses, bon voilà, pour les examens, etc. Si, j'ai toujours eu du plaisir et peu à peu, j'ai senti que c'était une chose qui était en train de se tarir.
Le plaisir ?
Non, le besoin de lire.
Ouais.
Pas le plaisir. Le plaisir est toujours là, je pense, quand à chaque fois que j'ouvre un livre. Mais ça se tarissait et je réalisais que c'était proportionnel à la place que prenait mon travail dans ma vie, en fait. Ce travail d'écriture, de lecture, de la nature humaine, en fait. Observer l'être humain, le lire, le décrypter, lire la nature. Et j'avais le sentiment que tout devenait lecture, en fait. Tout, sous mes yeux, tout devenait lecture. Et à mesure que ce monde se déployait, se dilatait, la littérature a pris... La littérature en tant que livre, roman, a pris de moins en moins de place. Et ça, c'est vraiment un phénomène assez étrange que j'ai pu voir, alors que j'avais envie de lire. Hein, et j'aime beaucoup la présence des livres chez moi, et je continue à en acheter. Il y a tout un tas de livres que j'ai devant moi et que j'ai pas lu et que peut-être même je lirai jamais, j'en sais rien, mais leur titre, leur présence me réconforte. Mais j'ai le besoin de lire, c'est tari, peu à peu. J'avais de moins en moins envie qu'on me raconte d'histoires.
Au sens propre comme au sens figuré.
Oui. Ouais. Je préférais lire les essais, des fois des biographies, des fois même des articles scientifiques. Mais la littérature, petit à petit, au sens où on va me raconter une histoire, ça a peu à peu disparu.
Pour laisser place à quoi ?
Ben, je vous ai dit, à ce monde parallèle que j'ai un peu que j'ai inventé, que j'ai créé, que dans lequel je passe mon temps à observer, à décrypter la nature humaine, le rapport à l'autre, le rapport au monde, le rapport à la nature. Et j'ai l'impression d'avoir transposé toute cette recherche et cette quête d'immensité que j'ai retrouvée dans les livres, de l'avoir transposée dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Il y a juste un livre qui va venir contredire ce que je dis là, c'est le dernier livre de François Cheng, De l'âme, que j'ai eu envie de... une furieuse envie comme ça d'acheter et de lire parce que en même temps que cette envie de ne plus entendre d'histoire disparaissait ou plutôt s'imposait à moi, j'avais envie et c'est là où cette espèce d'examen où on revoit les livres qui ont été importants, je me rends compte que finalement j'ai, au-delà des livres, j'ai toujours cherché la même chose. Voilà, cette résonance profonde que je peux ressentir dans mon âme, comme le dirait François Cheng. Je l'ai recherchée dans la littérature, mais je l'ai aussi recherchée dans le travail, dans la relation à l'autre. Et donc la littérature n'avait plus cette fonction, peut-être, de me faire découvrir d'autres mondes. C'est ce qui résulte de cette introspection.
De ce chemin, ouais. On va aller vers la sélection de vos textes, Nasera Belaza, juste après un peu de musique. このリンゴを一口かじったら、このリンゴをその雲の糸を渡って、三本の木のある丘を左に曲がると、青白い光がだんだんと見えてくる。そこには黒い穴があるの。そこには黒い。そこを飛び降りなさい。そこを飛び降り、怖がらないで。そこを飛び降り、怖がらないで。ね。Thank you. Là, on a commencé à l'évoquer, cet exercice, après avoir parlé un peu de la place de la lecture dans votre vie en général, Nassera Bellaza, on vous demande si vous voulez bien partager avec nous et avec les auditeurs du Book Club 5 textes qui seraient 5 textes étapes. Donc on va rentrer là-dedans. On a déjà évoqué ce moment où votre grand frère donc, partage des fiches de lecture, des textes qu'il lit pour vous inviter à en faire de même. Et votre premier choix va vers la philosophie, l'apologie de Socrate, de Platon. Alors, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit mot ? Donc ça fait partie, c'est un des textes qui vous invite à lire.
Alors que j'ai lu très tôt et que ce qui m'en est resté de plus fort, c'est cette quête et cette façon de vraiment décrypter le comportement humain, ses agissements pour essayer de comprendre s'il était mu par un souci de vérité ou de justice, m'a profondément touchée. Alors je disais tout à l'heure que la littérature, le territoire de la littérature s'est réduit à mesure que le territoire de mon travail s'agrandissait, mais j'ai aussi oublié de dire qu'il y a une forme de transposition que j'ai effectuée, c'est-à-dire que ce que je recherchais dans la littérature, les questionnements que les grandes questions qui m'habitaient et que j'ai retrouvées dans la philosophie aussi, je les ai transposées dans le corps. En fait, j'ai absolument pas travaillé comme une chorégraphe, mais j'ai exigé du corps ou j'ai questionné le corps.
Comme une chercheuse, quoi.
Absolument, comme une chercheuse. Et donc, toutes ces dimensions qu'on peut retrouver dans ces livres, que ce soit la poésie, que ce soit la philosophie, que ce soit le rapport à la nature, etc., c'est des éléments que j'ai évidemment...
Mais avec ces grandes questions, en formulant ces grandes questions.
Très tôt. En fait, c'est pour ça que je ne suis pas tombée par hasard sur Platon. Et je ne savais pas que je tombais dans la philosophie, d'ailleurs, en lisant ça.
À l'époque, vous voulez dire quand vous êtes adolescente, ouais.
Très jeune, habitée par ces questions existentielles, très, très fortes. J'ai absolument pas commencé la danse dans un sentiment de légèreté, pas du tout. J'ai démarré avec... J'ai commencé mon parcours en me posant toutes ces questions et je ne savais pas si le corps était en mesure de répondre à ces questions. Donc il a fallu que je le travaille d'une certaine manière, je le regarde d'une certaine manière pour à un moment donné sentir que oui, ce corps, cette écriture, cet art pouvait contenir ces immensités que je retrouvais par ailleurs dans la poésie ou dans la littérature. Donc il y a eu un phénomène vraiment de transposition. Et donc, pour revenir à Platon, à l'apologie de Socrate, ce souci très humble de chercher la vérité, de questionner le réel, de questionner la nature humaine, en fait, c'est un outil de travail. En fait, cette introspection dont on parle, c'est absolument ça. C'est questionner le pourquoi de chaque geste, chaque intention, qu'est-ce qu'on peut modifier, etc. Et donc, c'est devenu un outil de travail. Dans ce livre, ce que j'ai retenu, hein, parce que j'ai évidemment pas eu le temps de relire tous ces livres, c'est que on le condamne parce qu'on considère qu'il est un agitateur dans la cité, qui prétend être plus sage que les sages et que les hommes politiques, par exemple, que les artistes ou autres. Et donc, il essaye de démontrer à quel point la plus grande offense serait de croire que l'on sait. Et donc, il rencontre d'abord des politiciens à qui ils démontrent évidemment que leur savoir n'est pas suffisant. Ensuite les artistes, et il en vient à cette conclusion que je vais lire. Et ce qui est touchant, c'est de considérer, de partir à chaque fois du postulat qu'on ne sait pas. Et c'est ce qui enjoint au questionnement, c'est ce qui nous engage à cheminer, à continuer à questionner les choses. Et ça, je pense que ça a été une notion très forte, très importante et qui rejoignait la manière dont j'avais envie d'aborder aussi la danse.
On vous écoute pour un extrait de l'Apologie de Socrate de Platon. Vous commencez costaud.
À la fin, donc, j'allais trouver ceux qui travaillent de leurs mains. En effet, j'avais conscience de ne savoir pratiquement rien, mais j'étais convaincue de trouver en eux des hommes qui savaient quantité de belles choses. Sur ce point, je ne fus pas désappointée. Ils savaient effectivement des choses que je ne savais pas, et sous ce rapport, ils étaient plus savants que moi. Pourtant, Athéniens, ces bons artisans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Chacun, parce qu'il exerçait son art de façon admirable, s'imaginait en outre être particulièrement compétent aussi dans ce qu'il y a de plus important. et cette prétention, me sembla-t-il, occultait ce savoir qui était le leur. Si bien que, poussé par l'oracle, j'en vins à me poser la question suivante. Ne serait-il pas préférable que je sois comme je suis, n'ayant ni leur savoir ni leur ignorance, plutôt que d'être comme eux, à la fois savant et ignorant? Et à moi-même, comme à l'oracle, je répondis qu'il valait mieux être comme je suis.
Donc vous commencez par Apologie de Socrate de Platon, philosophe grec des 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, Nasser Abelhazzar. On entend cette conclusion-là d'être comme je suis. Mmh. Oui. Ni sachant, ni ignorant, mais d'être comme je suis.
C'est pas une mince affaire.
Non.
C'est dit simplement, mais c'est évidemment le travail d'une vie, une exploration. Et je pense que c'est ce travail d'observer la nature humaine, à commencer par la mienne, et de dévoilement et de connaissance de soi, qui m'a passionnée.
Mais aujourd'hui, ça passe par le mouvement
Non, le mouvement n'est qu'une conséquence lointaine de ce savoir sur soi et sur l'autre. Non, le mouvement, c'est un habillage, mais il n'est absolument pas à l'origine de... Non, c'est de la pure introspection qui est à l'origine, pour savoir... Il y a une chose qui m'est apparue très vite aussi, c'est... Je me suis posé ces questions quand j'ai commencé à danser. Je me suis dit, mais si j'élimine le mouvement que je fais par peur de qu'on ne me voit pas, donc j'enlève ce mouvement. Et si j'enlève le mouvement que je ferais pour séduire l'autre, pour chercher à séduire l'autre, si je l'enlève, j'élimine ce mouvement-là. Et si j'élimine le mouvement qui me sert à montrer à l'autre que j'existe, je l'élimine. Quel genre de mouvement, quel type de mouvement il resterait ? Et je pense qu'on peut faire la même chose au niveau de la parole. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de choses qui m'intéressent aussi. Parce que vraiment...
Qui vous intéresse dans les livres, dans les textes, oui, ou dans la vie en général?
Oui, dans les livres, dans les textes. Et puis on peut aussi un petit peu l'élargir. Mais c'est évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel à dire? Que ce soit dans le mouvement comme dans la parole. C'est pour ça que je disais, il y a énormément de livres qui peuvent être passionnants, intéressants pour plein de raisons. Mais c'est comme si... Enfin, on est de par sa nature amené à regarder le réel sur un plan ou un autre. Et le plan sur lequel je l'ai toujours observé, c'est celui effectivement d'aspiration très très grande, de quête de vérité, de questions existentielles. Et quand on est sur ce plan-là, non pas que ça annule tous les autres questionnements ou ça les rend moins intéressant ou vain, mais se situe juste pas sur le même plan. Et pour moi, il fallait que tout ce que j'allais faire dans mon travail soit porté par une véritable nécessité, il fallait que ça réponde à cette injonction de est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est essentiel ou pas. Et je pense que si j'ai été touchée ou appelée par la philosophie, c'est parce que j'avais besoin de ces questions pour façonner mon propre travail.
Mais vous dites, à ce moment-là, au final, j'étais déjà animée par toutes ces grandes questions. Donc, vous êtes au mi-temps de votre adolescence, Nasser Abelhazzar. Et finalement, ce ne sont que des textes qui viennent reconnaître ce qu'il y a déjà en moi. Ça veut dire que, vraiment aucune prétention dans cette formulation, mais Platon vous apprend rien. En fait, si je vous écoute, vous dites plutôt, tiens, me voilà écouté, ou tiens, voilà légitime les questions qui m'animent.
Que cette quête de vérité, effectivement, elle était... C'est pas que Platon ne m'apprend rien, c'est... D'abord, je pense que la philosophie, c'est pas forcément l'apanage de l'adulte. Hein. L'enfant est tout fait en mesure d'appréhender ces grandes questions. J'ai, moi, par nature, été taraudée par ces questions très tôt. Vraiment, je pense que c'est le moteur qui fait que je pousse mes pièces aussi loin. C'est parce que j'ai tellement peur qu'elles soient vaines, en fait. J'ai tellement peur que ça ne serve à rien, ou juste à amuser, ou juste à occuper un temps les spectateurs. Donc, il y avait ce moteur de recherche de vérité. Et là, d'un coup, je lis un livre de philosophie où les questions sont posées, somme toute, assez simplement. Hein, c'est pas non plus... Où ils questionnent tout. Il questionne tout et part à chaque fois de ce principe fondamental que peut-être il ne sait rien. Et je ne savais pas que c'était de la philosophie quand je l'ai lu. mais ça a rencontré chez moi un désir et une quête de vérité qui était déjà là, oui.
Est-ce que, puisque tout à l'heure vous parliez de transposer des choses que vous avez lues, des choses importantes au plateau, au travail du mouvement, au travail de la danse, est-ce que, ou comment, ou qu'est-ce que ça veut dire de se dire qu'on sait rien en danse, quoi, dans la danse, dans le mouvement? Ça veut dire quoi, du coup? On arrive où quand on se dit
ça? Ça met en place deux aiguillons très importants qui sont la vigilance et l'humilité, qui permettent de questionner au quotidien ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quel but on le fait, etc. Et ça permet d'identifier ce qui est de l'ordre de la connaissance factuelle, voilà, apprendre à faire des choses avec le corps, etc., d'une véritable connaissance de l'être qui est à chaque fois mise en lumière différemment, questionnée différemment. Donc, les danseurs qui travaillent avec moi pourront en témoigner, mais c'est une table rase au quotidien pour pouvoir...
Quel épuisement, c'est-à-dire que jamais, vous n'avez jamais d'assise alors?
Non, ce qui épuise dans mon travail, c'est précisément ça. L'émission pourrait s'arrêter là parce qu'on vient de dire l'essentiel sur mon travail. Il n'y a aucune assise. C'est ce qui épuise dans ce travail.
Ouais.
Autant le corps, il est... Voilà, pour moi, c'est pas là que je place l'effort, le travail.
Mais ça veut dire que voilà. Tu peux pas te reposer sur un acquis.
On est en veille. À partir du moment où on commence à lever le voile sur ces questions, on se rend compte qu'on est en veille en permanence, qu'on peut plus rien se reposer sur rien, qu'aucun savoir n'est garant de quoi que ce soit. Et j'ai pas trouvé mieux, c'est que je considère que c'est le seul moyen de se sentir vivant dans l'instant.
Votre deuxième choix, alors, c'est le poème. C'est Baudelaire. On fait un énorme bond dans le temps et on arrive au 19e siècle. Quand est-ce que vous découvrez les fleurs du mal ?
Toujours autour de la période de l'adolescence, évidemment. Ça fait partie aussi des poètes que mon frère chérissait et qu'il m'a mis entre les mains. Baudelaire, ce qui m'a à l'époque, aujourd'hui je le lis évidemment avec une autre sensibilité presque.
Mais on est toujours dans les mêmes eaux, 14,
oui,
15,
oui,
16.
Oui, toujours à cette. C'est le fait qu'un poète dissèque à ce point la nature humaine dans ce qu'elle a de plus. Dans ses plus grandes aspirations vers le beau, le grand, l'universel, et puis des aspirations plus sombres, et qui fasse de ça une forme de beauté. Ça, c'était bouleversant de voir qu'on pouvait.
Parce que vous en doutiez ?
J'en doutais pas, je crois que j'avais pas d'idée à ce moment-là,
ouais.
mais quand on lisait la poésie avant Baudelaire, c'était le beau était nécessairement un élan vers je pourrais faire le parallèle avec la danse classique, on en parlera peut-être plus tard, mais c'était forcément quelque chose, parler de l'être humain, c'était forcément parler de ses aspirations les plus belles, une forme d'idéalisation. Et là, on a un poète qui décide de se confronter à la nature humaine dans toute sa complexité, de la décrire dans toutes ses contradictions, dans toutes ses... il parle de double postulation, d'une aspiration vers le haut, une autre vers le bas. Et ça m'a parlé très fortement, parce que on a l'impression que... qu'on nous aide à nous connaître, déjà, en nous dévoilant que, effectivement, on est tous composés de cette manière-là, qu'on a tous une forme d'obscurité et de lumière en soi, et qu'ils réussissent à en faire des poèmes et donc à produire une forme de beauté, c'était profondément touchant. Il y a aussi autre chose qui m'a en revisitant Baudelaire, là j'ai aussi compris qu'il y a une chose très importante qui s'est diffusée dans mon travail, c'est cette logique des correspondances qu'il applique à la plupart de ses poèmes, où il considère que tout communique, nos sens, la nature, les couleurs, les senteurs, et que la poésie ou l'œuvre, peut-être, elle sert à décrypter ces signes et ces correspondances entre tout ce qui nous traverse. Et ça, effectivement, quand je regarde mon travail, donc j'écris le corps, l'écriture du corps, mais aussi le son, la lumière, l'espace noir, tous les éléments, en fait. Et j'ai ce rêve, cette obsession que tout ne fasse qu'un. Et donc, il y a eu des prémices de ça, je pense, au moment de la lecture de Baudelaire. Je ne dirais pas que c'est les correspondances qui m'ont amené à travailler comme ça, mais c'est parce que j'avais cette idée de... cet idéal, en fait, d'unité, d'unification et de mise en lien que j'ai retrouvé.
Que vous êtes trouvé sensible à cette poésie-là, en fait.
Absolument.
Vous avez choisi un poème qui s'appelle « Élévation » dans Les Fleurs du Mal, dont la première publication du recueil s'est faite en 1857.
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.
Dans cette élévation, il y a les deux, presque les deux manières d'être à la fois lesté par le chagrin et d'être capable d'être comme l'oiseau, Nasser Abelhaza. Mais il y a aussi, depuis tout à l'heure, vous évoquez aussi l'idée selon laquelle votre travail, c'est une lecture de la nature, du vivant. Et là, on entend dans la poésie de Baudelaire qu'il y a, le vivant autour, quoi. Il n'y a pas que le corps des humains. Ça passe par quoi ? Aujourd'hui, quand vous dites votre attention, votre lecture du vivant, c'est quoi concrètement ?
Il y a effectivement, oui, dans ce poème, ces deux appels vers le haut et, et le bas. Et quand j'ai commencé à observer le corps, j'ai évidemment que, en plus à l'époque, l'image de la danse classique, c'est-à-dire une danse qui va vers le haut, une danse qui s'extrait à la gravité, une danse qui s'étire vers le haut et qui est une forme de négation de la gravité, me semblait très étrange. Et en observant le corps humain et essayer de faire sourdre cette légèreté à laquelle on aspire tous, mais qui n'est pas une légèreté physique, qui est une légèreté intérieure, eh bien, j'ai très vite compris qu'il fallait lester le corps. Mmh. Il fallait que le corps reste lourd, pesant, ouvert, infiniment ouvert, et qu'il puisse accueillir, comme on le fait dans la vie assez naturellement, que sa perception soit plus élargie à tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il traverse. Et donc ça se traduit, entre autres, de cette manière-là, c'est-à-dire, c'est comme des lois physiques qu'il faut rétablir. C'est-à-dire, le corps doit être lourd et doit être ouvert, en même temps, ce qui l'anime est extrêmement léger, puisque voilà, on parle d'une matière invisible, elle le traverse, et c'est précisément la jonction entre ces deux matières qui fait qu'on atteint un endroit d'équilibre entre le lourd et le léger, et qui pour moi parle de l'humain, de la nature profonde de l'humain, qui n'est donc pas une négation de son poids, de sa pesanteur, de ce qu'il tire vers le bas, mais c'est au contraire composé avec cette pesanteur. Et en même temps, la danse n'est pas cette espèce d'élan qu'on voudrait qu'elle soit vers le haut, vers toujours plus de légèreté, comme si elle refusait de
d'être au sol.
Elle refusait d'être au sol. Et en fait, c'est vraiment un travail de chercheur et presque vraiment de physique, de comprendre comment on va retrouver cette légèreté qui est effectivement pas une légèreté physique, mais qui est quelque chose de beaucoup plus nourrissant, où on sent que le lourd a été traversé par la légèreté infinie. Et là, il se produit quelque chose chez l'interprète et chez le spectateur qui est, pour moi...
Mes sourcils se détendent juste à ce...
Absolument.
Non, mais c'est vrai. Hein,
c'est à cette fonction.
Eh bien, écoutez, juste à la prononciation de ces phrases, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ouais. Quelque chose de mon front, là, ça va mieux. Ça s'ouvre.
Mais c'est comme ça que ça opère.
Hein. C'est fort. Hein.
Ça opère. Les mots peuvent être les déclencheurs.
J'ai senti mes sourcils se détendre.
Qui peuvent transformer l'état du corps. Et j'étais précisément en train de transformer mon état, ce qui a provoqué peut-être cette réaction chez vous. Et c'est de cette manière-là que ça s'est aussi traduit. C'est vraiment lire le corps humain. Si on refuse tous les modes d'emploi qu'on nous donne quand on commence à faire de la danse, puis d'ailleurs, j'ai pas pris de cours, donc on pouvait pas m'en donner beaucoup, mais nous dire que la danse, c'est ça, ça répond à ça, ça doit gérer l'espace de cette telle et telle manière. Mais si je fais table rase et que je me dis, mais je ne sais pas, j'ai une autre histoire, mon corps vient d'ailleurs, j'ai un autre rapport à la lumière, au ciel, à la terre, je ne connais pas l'être humain que je suis et que donc je vais devoir cheminer à l'intérieur de moi-même pour lever le voile sur toutes ces choses. Et c'était ça qui me passionnait et qui me donnait envie de faire de la danse et qui, à la perspective d'y consacrer ma vie, voilà, me donnait du souffle. Sinon, je n'aurais pas eu cet intérêt pour la danse, pas du tout. Voilà. Et vraiment, de réussir dans le corps à matérialiser ces notions, ces idées, c'est un grand bonheur, vraiment.
Votre troisième choix va vers le roman. Au final, on a commencé par la philosophie, la poésie du 19e. Là, on passe au 20e. C'est un roman qui s'appelle Manhattan Transfer, de John Dos Passos. Comment vous le découvrez, Nasser Abelhaza?
Alors, peut-être que je vais élargir un petit peu. C'est que, donc à ce moment-là, je suis à la fac. Et à la fac, je découvre, d'ailleurs, grâce à deux professeurs, Guy Scarpetta, qui était un critique d'art, et Monsieur Marshall, je ne me souviens plus de son nom. Donc, j'apprends assez durement, en arrivant à la fac, que la forme est quand même très importante, qu'il ne suffit pas d'avoir de grands sentiments, de grandes aspirations, mais que si on n'arrive pas à le mettre en forme, c'est problématique. Et là, je découvre tout un tas d'univers comme John Dos Passos, mais Kundera, d'autres œuvres qui me font comprendre que la forme peut contribuer à créer ce trouble des sens, activer, à exacerber la perception du spectateur, qu'elle est au contraire, elle n'est pas forcément qu'une forme qui vient l'embellir, mais qu'elle peut aussi agir et renforcer. Et ça, je pense que donc ce livre est un peu en rupture par rapport aux autres, parce que il a été
en rupture dans les choix que vous faites là.
Les choix que j'ai faits, parce que vraiment au niveau de la, il y a quelque chose qui s'est déclenché au niveau de la forme. Mmh. C'est-à-dire que j'ai compris que voilà, on pouvait retrouver de la peinture ou du cinéma dans un livre, ce qui n'était pas le cas avant. Et cette fusion, cette confusion des arts était très troublante. Cette façon de fractionner complètement le récit et puis d'en faire une espèce de collage, ça m'a fortement marquée. Et je pense que ça induit énormément de choses aussi après, où ça a permis une grande liberté dans l'écriture que je m'offre aussi au plateau. Et donc de ce point de vue-là, quand même, je devais lui rendre hommage, parce que c'est vraiment...
Qu'est-ce qui se passe dans ce que vous disiez, Nasser Abelhaza, que finalement ces livres, vous avez laissé plus des idées que des souvenirs d'histoire, mais si on devait dire ce que c'est que Manhattan Transfer, vous sauriez dire
ou... L'histoire, je m'en souviens pas, je sais que c'est le parcours de plusieurs personnages qui commencent de façon très fractionnée et qui petit à petit convergent les uns vers les autres et aboutissent en une histoire. Et donc, cette façon de raconter, de déstructurer le récit, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans une histoire un peu linéaire comme ça, mais de faire que ça se télescope, ça me racontait ou ça me donnait l'impression d'être plus proche de la façon dont on vit les choses à l'extérieur. C'est de cette manière-là. Il n'y a pas un fil tendu, continu, mais c'est une interaction, des correspondances, comme je le disais chez Baudelaire, interaction de plusieurs événements, de parcours de vie qui vont générer... mais au-delà de ça, ce que je disais aussi, ce qui était important pour moi, c'était vraiment que je retrouvais dans cet art, et ça est devenu déterminant dans mon travail, de me dire qu'une œuvre, quand elle est aboutie, elle doit laisser refléter les autres arts. C'est-à-dire qu'on doit y voir de la peinture, de la poésie, du cinéma, etc. Quand l'objet est vraiment plein, peut-être que l'art à l'origine n'était qu'un seul art et qu'il a été comme ça divisé en champs, en plusieurs champs, mais quand la littérature ou quand... la peinture...
Ça doit tendre vers le total, quoi.
Oui, l'art total, il y a quelque chose comme ça. Et dans son écriture, je retrouvais le mouvement, la musicalité, le cinéma, on dirait un montage complètement... voilà, c'est ce qui m'a impressionnée dans cette lecture, et je crois qu'elle a été assez marquante dans la façon dont j'ai pu travailler par la suite.
Est-ce que vous lisez la traduction de Philippe Jarowski?
Oui, c'est
super. Donc on vous écoute pour un extrait de Manhattan Transfer.
Un petit extrait.
Un petit extrait.
Voilà. Roule au compresseur, le crépuscule adoucit délicatement les rues aux angles aigus. La nuit comprime la ville d'asphalte qui fume, écrase le bois. champs tournés des fenêtres, les enseignes, réservoirs, ventilateurs, échelles de secours, moulures, dessins, corrugations, et les yeux, les mains, les cravates, dont elle fait des blocs bleus, des monolithes noirs, sous la pression toujours plus puissante du rouleau. Les fenêtres giclent de la lumière, la nuit comprime tout, les lampes à arc répandent des coulées de lait brillant, les monolithes maussades des gouttes de rouge, de jaune, de vert, dans les rues qui résonnent de bruit, de pas. Tout l'asphalte suinte de la lumière fuse des enseignes sur les toits, tourne et broie vertigineusement, parmi les roues, macule des tonnes de ciel qui roulent. Donc c'est quasi incompréhensible, mais...
Pas du tout.
Mais cette façon...
C'est presque, on dirait, du Jackson Pollock. On a presque envie de le relire. Faites voir.
Oui, vraiment, il est...
Voilà. On dirait presque des giclures de peinture. Le crépuscule adoucit délicatement les rues aux angles aigus. La nuit comprime la ville d'asphalte qui fume, écrase le bois chantourné des fenêtres, les enseignes, réservoirs, ventilateurs, échelles de secours, moulures, dessins, corrugations et les yeux, les mains, les cravates dont elle fait des blocs bleus, des monolithes noirs. Sous la pression toujours plus puissante du rouleau, les fenêtres giclent de la lumière, la nuit comprime tout, les lampes à arc répandent des coulées de lait brillant. Les monolithes maussades des gouttes de rouge, de jaune et de vert dans les rues qui résonnent de bruit de pas. En fait, on a l'impression d'une... Comment ça s'appelle tous les sens? Synesthésie.
Oui, synesthésie, absolument.
Tout l'asphalte suinte de la lumière fuse des enseignes sur le toit, tourne et broie vertigineusement parmi les roues, macule des tonnes de ciel qui roulent. Tout est à l'avenant, Nasser Abelhaza, parce que ça, c'est un petit paragraphe, comme un prologue dans le chapitre 5.
Oui, mais c'est...
Tout est comme ça, ouais, tout le temps.
C'est très nerveux, c'est très...
Il y a plein de virgules. Plein On a aussi l'impression d'un...
Une accumulation d'informations.
Ouais, qui passe son temps à se déplacer
il arrive à traduire une chose que je trouve assez impressionnante, cette frénésie, comme ça, du regard, de la perception... Oui, moi je sais que c'était assez bouleversant de le lire et de voir la liberté aussi qu'il y avait derrière tout ça.
Au final, quand vous disiez tout à l'heure qu'en créant, vous, non seulement vous écrivez les corps, mais vous écrivez aussi la lumière, vous écrivez aussi le son, d'une certaine manière, vous écrivez aussi l'espace. C'est un peu ça qui se joue là, c'est-à-dire que vous jouez sur tous les curseurs.
Oui, mais c'est pas plus, pour moi, c'est une seule chose. Mmh. C'est vraiment, très souvent, je le dis, je ne comprends pas qu'on puisse ne travailler qu'un seul élément, qu'une seule matière, le corps ou la lumière, et puis après faire une sorte d'habillage. Moi, je travaille le corps, je vois l'espace, je vois la lumière, les sons commencent à entrer en friction, et tout ça se nourrit de la même manière jusqu'à ce que la chorégraphie n'est pas le plus important dans mes pièces. Hein. Elle fait partie d'un tout. Et c'est ce type d'objet que je vise à chaque fois. Et ce trouble de la perception, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, il est. Oui, c'est une recherche très importante pour moi.
Peut-être que vous ne l'avez pas cherché parce qu'on avance dans votre biographie, Nasser Abelhaza, mais en fait, on avance aussi dans l'histoire littéraire, parce que là, on était avec un roman de 1925, on était au 19e, et là, on arrive en 29, avec Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Vous découvrez comment ce texte-là?
Je ne sais plus, franchement, comment je l'ai découvert. Je pense que c'est peut-être le plus important pour moi, ce texte.
Parmi tous ceux que vous partagez avec nous aujourd'hui?
Oui. En tout cas, c'est celui qui m'est resté le plus fortement. Le questionnement premier qui met à nu un artiste. Quelqu'un qui essaie de savoir si ce qu'il fait est valable, s'il doit créer ou pas. Et l'honnêteté avec laquelle on lui répond, la vérité avec laquelle on lui répond, je la trouve bouleversante. Et c'est d'ailleurs une phrase que je cite souvent aux danseurs. C'est de plus en plus anachronique de tenir ce genre de propos, mais je le fais quand même. Quand il y a un appel aussi fort à l'intérieur de soi...
En l'occurrence, Rainer Maria Rilke répond vraiment, par des lettres, à Franz Xaver Kapus, entre 1903 et 1908. Il ne connaît pas le jeune homme, homme a à peine 20 ans, et il lui répond sur des questions de... Vous êtes un jeune poète, je vais répondre à vos questions. Quoi.
Il lui répond surtout à ses textes. Il envoie des textes, des poèmes à Rilke, et il lui demande ce qu'il en pense. Et Rilke le met face à lui-même et lui enjoint une mise à nu des plus absolues. Et en fait, ce qui m'a semblé tellement vrai, c'est le fait de... c'est le passage d'ailleurs que je vais lire, hein, mais ce questionnement, est-ce qu'il y a une véritable nécessité à ce que je crée ? Et je pense que...
C'est ça que vous dites à vos danseurs, ce que je vous ai coupé à ce moment-là.
Bien sûr, je leur dis, voilà, cette fameuse phrase, pose-toi la question à l'heure la plus froide et la plus sombre de la nuit. Si... Bon, je vais lire le passage, mais si la réponse est claire à cette question, il ne peut plus y avoir d'obstacle. C'est vraiment, tout devient clair à l'intérieur de soi, il y a une forme de...
Mais c'est une vie pour répondre clairement à ça, non ? Pas forcément, on peut...
Non, pas forcément.
Depuis le début, vous dites beaucoup que ça vous est arrivé très tôt, cette réponse claire.
Oui, non, on peut très vite sentir le degré de nécessité. Moi, je me souviens d'une danseuse qui commençait à travailler avec moi il y a très longtemps et qui m'a dit, qui a arrêté au bout de 2-3 ans, et qui m'a dit, en fait, en faisant ce travail, et sans même que je lui pose cette question, ça m'a amené à me demander pourquoi je dansais vraiment. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que parce que les parents, elle avait des facilités techniques et que les parents l'emmenaient faire des concours et que finalement, ça n'a jamais été vraiment son désir. Et donc, ça permet de mettre en lumière ces choses-là, de savoir s'il y a au fond de soi une nécessité impérieuse qui nous pousse à créer. Parce que après, la création, c'est... Enfin, je veux dire, si on y engage toute sa vie, c'est, je pense, la chose la plus difficile qui soit sur cette terre. Donc, on ne peut pas commencer à faire de la création sans commencer par se poser ces questions qui peuvent être décourageantes, hein, et qui peuvent effectivement dire non. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Maintenant, je sais qu'on peut créer de manière plus légère et plus... Mais moi, le curseur a été placé à cet endroit-là. À ce moment-là.
Et ça veut dire aussi que vous le réinterrogez toujours, Nasser Abelhaza ?
Oui, le jour où j'ai plus cette nécessité, je le sens quand je fais une pièce, je pense que c'est la seule chose qui peut m'amener à m'arrêter. C'est pas l'âge, c'est pas le fait que la compagnie, voilà, que les créations soient vues ou pas, c'est vraiment si cette nécessité finit par s'éteindre, je m'arrêterai. Mais tant qu'elle est là, tant qu'elle me pousse à questionner les choses, je suis désolée, mais c'est que ça. Hein, en permanence, on questionne ce qu'on voit, pourquoi on le voit, comment on le voit, qu'est-ce qui détermine qu'on le voit de cette manière-là, etc. etc. C'est sans fin. Et c'est pour ça que j'essaie, quand les danseurs arrivent dans le travail, de nous mettre au diapason en leur disant, attention, pour pouvoir danser ce type de danse, pour pouvoir engager cette partie-là de soi, il est nécessaire de se poser vraiment certaines questions. Parce que ce que je demande à l'être humain sur scène, au-delà du danseur, c'est un engagement d'une force et d'une profondeur qui n'a rien à voir avec le danseur intermittent du spectacle. C'est vraiment beaucoup plus. Et pour ça, on doit... avoir mis en lumière certaines choses, mais...
Mais on y trouve de la joie, rassurez-moi.
Moi, je suis rentrée par cette porte-là. Après, il n'y a que joie et liberté, mais au départ, les questions doivent être celles-là. Et on sent quand les choses résonnent en surface ou pas. Donc moi, je ne fais que révéler ces choses-là. Et après, au début, c'est assez âpre, cette confrontation à soi, mais on se rend compte qu'on est en même temps délesté d'un tas d'artifices qu'on pensait essentiel, et on fait naître, sourdre, une nature profonde qui, je crois, nous remplit de joie, au final. Vraiment.
Sinon... Vous lisez quelle lettre de Rilke ?
La première, okay. Parce que je pense qu'il pose un peu tous les jalons à ce moment-là. Donc, vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez à moi, vous l'avez auparavant demandé à d'autres, vous les envoyez à des revues, vous les comparez à d'autres poèmes, et vous êtes agité quand certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous donner des conseils, je vous prie de laisser tout cela. Vous regardez vers l'extérieur, et c'est justement cela, plus que tout au monde, qu'il vous faudrait éviter en ce moment. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'y a qu'un moyen, un seul, rentrer en vous-même, explorer le fond qui vous enjoint d'écrire, vérifier s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si, dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. C'est cela avant tout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je contraint d'écrire ? creusez en vous-même jusqu'à trouver une réponse profonde. Et si elle devait être positive, s'il vous est permis de faire face à cette question sérieuse par un simple et fort « j'y suis contraint », alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité. Votre vie doit être, jusqu'à son heure la plus indifférente et la plus infime, signe et témoignage de cet irrépressible besoin. Puis, approchez-vous de la nature, puis tentez, comme si vous étiez le premier homme, de dire ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous aimez et ce que vous perdez.
Votre dernier choix, c'est un choix que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, Nassera Belhaza, et qui finit de nous propulser dans le 21e siècle. Finalement, les choix que vous avez faits, ils avancent aussi dans le temps. C'est un texte de François Cheng qui s'appelle « Deux lames ». Ce sont aussi des lettres. Cette lettre à une amie, je vois.
Oui, alors je crois l'avoir entendu dire dans un entretien qu'il préférait... Préférait cette forme d'échange épistolaire, comme ça, pour dire les choses, plutôt que d'affirmer à partir de son point de vue. Et j'ai trouvé ça troublant, effectivement, que ça rejoigne l'échange avec... parce que finalement, c'est peut-être dans cet échange horizontal, comme ça, qu'on arrive à délier, dénouer, à délivrer des choses, qu'il est plus difficile de dénoncer un peu comme des vérités absolues. Et donc, oui, c'est ça. Et en fait, je l'ai découvert, comme beaucoup, je pense, sur un plateau télé où il tentait de parler de l'âme. Et j'ai trouvé ça très courageux. Je me suis dit comment il est possible de vouloir réhabiliter une telle notion sur un plateau télé où les choses vont très vite, où on veut nous faire dire des choses... voilà. Efficace, concrète, que tout le monde peut comprendre. Et là, il tente et...
Et ça marchait ?
Bien sûr que ça marche, parce qu'il est extrêmement humble et juste dans sa parole. Et donc, il arrive à décrire des choses... voilà, je me suis dit, mais ce qu'il fait là, c'est vraiment pas anodin, parce que c'est évidemment une terminologie qu'on a peu à peu fait disparaître... de notre vocabulaire, de ce qui anime notre quotidien. Pour être quelqu'un qui travaille sur l'invisible, sur ce qui dépasse l'être humain, ce qui l'anime, etc., je suis en permanence en train de manipuler ces notions. Je trouvais ça assez courageux de se poster sur un plateau télé et de dire « on a tous une âme elle ressemble à ça, on ne peut pas la réduire, on ne peut pas réduire l'être humain à n'être qu'un esprit, un corps. » Et voilà, dans un premier temps, son courage d'oser parler de cette notion aussi lointaine. C'est une des notions même qui est, je crois, complètement disparue. Et puis ensuite, donc, ça m'a amené à vouloir l'écouter plus, à le lire plus. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de poésie autour de la nature humaine. Il parle aussi de nos aspirations. Ça rejoint un petit peu aussi ce que j'ai pu retrouver chez Baudelaire, cette double aspiration. Comment se dégager de notre condition humaine pour aspirer à des choses plus grandes. Et voilà, c'est peut-être le seul genre d'histoire que j'ai envie d'entendre désormais.
Alors, on se quitte avec un extrait de François Cheng. Le texte s'appelle « De l'âme ».
Au bout de tout, voici ce que j'ai saisi. La vraie vie n'est pas seulement ce qui a été donné comme existence. Elle est dans le désir même de vie, dans l'élan même vers la vie. Ce désir et cet élan étaient présents au premier jour de l'univers. Au niveau de chaque être, cependant, ils sont fondés sur ce que son âme, par-delà les épreuves, les souffrances, les chagrins, les effrois, les blessures reçues ou infligées aux autres, aura préservé de sensations éprouvées, d'émotions vécues, d'inlassable aspiration à un au-delà de soi, de soif et de faim, aussi infini que le besoin sans borne d'amour et de tendresse. Au risque de la répétition, qui est un peu le caractère inévitable de ces lettres, je voudrais, avec votre indulgence, dire de façon plus globale certaines idées déjà exprimées en essayant de faire encore un pas en avant. Il y a donc le grand tout, il y a chaque âme minuscule. Et tout, depuis toujours, est vécu par chaque âme unique, en dépit des malheurs causés par l'existence du mal sous tous ses aspects. Une immense donation a lieu. Tout le ciel étoilé, la terre nourricière, toute la splendeur de l'aube et du soir, toute la gloire du printemps et de l'automne, tout le souffle animant l'univers porté par le vol d'oiseaux migrateurs, tous les hauts champs humains montés de la vallée des larmes, tout cela constitue un ici et maintenant où l'éternité se ramasse. Cet ici et maintenant ne peut rayonner, irradier, faire fleurir et porter fruit, susciter écho et résonance, et par là prendre tout son sens que s'il est vécu par une âme. Ainsi, une immense expérience de vie est déposée là, dans l'ensemble de ces âmes, qui ne sont nullement des entités vagues ou neutres, vides de contenu, au contraire, ayant absorbé en elles le génie du corps et de l'esprit, ayant assumé les conditions tragiques de l'existence terrestre, elles sont devenues des entités éminemment incarnée et désirante, et partant des candidates à un autre ordre de vie.
Merci beaucoup Nasser Abelhaza d'avoir partagé avec nous votre bibliothèque.
Merci.
C'était un plaisir, vous n'étiez pas obligé de répondre.
Non, non, c'était un plaisir.
Ouais, c'était vraiment un plaisir.
C'était une vaste expérience, vraiment.
I looked up, saw a cloud floating by without a sound. Banana slugs do their yin-yang thing, a hermaphroditic little fling. I looked up, saw a cloud floating by
Au son aujourd'hui, c'était Ludovic Augier, à la réalisation June Loper. Vous pouvez retrouver toutes les références des textes évoqués par Nasser Abelhaza sur le site franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi là-bas que vous pouvez écouter tous nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. I'm sorry.